L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Chaque jour, ensemble, soyez encouragés dans votre foi par la prière, la parole et la présence de Dieu. Bonjour, nous sommes mercredi et ensemble, comme chaque mercredi, on partage un résumé d'un livre de la Bible. Et on a beaucoup avancé, on est déjà dans le livre de Colossiens. Alors Colossiens, cette épître qui a été écrite par l'apôtre Paul et qui, certainement avec l'aide probable de Timothée, donc vont écrire cette lettre. On est dans l'an à peu près 60 à 62, donc après le Seigneur. Et Paul se retrouve emprisonné à Rome à ce moment-là. Les chrétiens de Colosse, c'est les destinataires de la lettre, et bien plus que ces chrétiens, puisqu'il va demander même à ce que la lettre soit lue ailleurs, dans une petite ville de Phrygie, actuelle Turquie. Paul n'a jamais visité cette église lui-même, et elle a été fondée par Épaphras, qui était un disciple de Paul. Alors il y a plusieurs objectifs, mais l'objectif principal de cette épître, c'est vraiment de pouvoir partager la suprématie de Christ. Christ est le plus grand, Christ est le seul intermédiaire, et c'est de ramener les croyants à la simplicité de l'évangile et d'encourager une vie nouvelle avec le Seigneur, sans légalisme, sans syncrétisme, toutes ces philosophies humaines, légalisme juif, etc., mais de tout ramener vers le Seigneur. Alors la structure de la lettre, Paul commence comme souvent avec une salutation, une prière, et il va commencer directement à entrer dans le vif du sujet avec en parlant de la grandeur de Christ, et il va parler de son ministère un peu, donc le ministère de Paul pour l'Église, et il va commencer à mettre en garde contre les hérésies, les fausses doctrines, et partager la vie nouvelle en Christ, terminée par des salutations. Je vais partir avec toi deux, trois versets clés sur cet épître. Alors Colossiens 1, versets 15 à 17, « Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. » Et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Waouh, quel passage magnifique à propos du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1:27 qui dit que Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Et cet encouragement au chapitre 2, prenez garde que personne ne fasse de vous pas sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Et on pourrait partager aussi Colossiens chapitre 3, hein, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Alors plusieurs particularités de cette épître, c'est vraiment l'épître où on va retrouver la christologie, ce qui s'appelle la christologie, hein, vraiment à propos de Christ, la plus élevée du Nouveau Testament, on en a lu un morceau ensemble, et face aux hérésies, réduisant Christ en fait à un intermédiaire parmi d'autres, c'est ce qui se passait un peu à l'époque dans ce contexte, Paul va affirmer que la plénitude de la divinité habite en Christ. La plénitude de la divinité habite corporellement en Christ, et c'est l'antidote contre toute forme, comme je l'ai partagé, de légalisme, de mysticisme, de philosophie vide qui vont quelque part détourner de la suffisance de Christ. Et encore aujourd'hui, on le sait, même dans les religions dites chrétiennes, on peut détourner de Christ par plusieurs intermédiaires. Les gnostiques disaient en fait que la plénitude divine, elle était fragmentée entre divers intermédiaires. Et Paul est en train de leur dire à travers cet épître, non, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Toute la plénitude habite en Christ seul. Alors, cette lettre va être apportée par Tychique, par Onésime, à ses frères et ses sœurs là-bas. Et donc, on y trouve des instructions précieuses aussi sur la vie familiale, spirituelle. Il y a un style et un vocabulaire qui lui est propre, avec des phrases qui sont longues. Par exemple, chapitre 1, il y a 5 ou 6 versets, c'est une seule phrase, un vocabulaire qui est riche, qui est varié. Il va utiliser plusieurs termes philosophiques grecs dans cet épître, avec un vocabulaire unique, puisqu'il y a 34 mots qui ne se retrouvent que dans cet épître. Pourtant, elle est quand même assez courte, et une relation très forte avec le livre ou l'épître aux Éphésiens, puisque la moitié des versets du livre de Colossiens se retrouvent ou trouvent une résonance dans le livre aux Éphésiens. Donc il y a vraiment une forte similitude, et on retrouve donc, on voit que Paul n'a pas honte, et c'est pas un problème pour lui de répéter les mêmes choses ou d'appuyer sur certaines choses ou certaines doctrines. Il va souvent utiliser des paires de mots Donc par exemple, il va utiliser la sagesse et l'intelligence spirituelle, il va utiliser la force et la puissance, la patience et la constance, le côté visible et invisible, parole et œuvre. Il va nous dire de chanter et de psalmodier. Donc ça revient aussi assez régulièrement dans son épître. Il partagera à propos de ce culte des anges hein, en enseignant, en disant que donc les hérétiques enseignaient qu'il fallait vénérer les anges comme intermédiaires. Lui, non, il dit non, que personne ne vous trompe par un culte des anges ou une fausse humilité. Donc, il partagera sur ces choses-là en parlant de ceux qui, donc par ascétisme, en fait, vont faire comme souffrir leur corps, un traitement dur à leur corps, mais il dit que toutes ces choses-là, en fait, elles ne servent pas à nous rapprocher du Seigneur, au contraire, elles font simplement glorifier la chair. Et le Seigneur, lui, eh bien, il veut nous remplir la suffisance de Christ. Et il nous dit finalement que Christ nous suffit pleinement. Christ nous suffit pleinement. Et alors qu'on va entrer dans l'encouragement du jour, avant cela, j'aimerais justement qu'on puisse proclamer la gloire de Jésus-Christ. Il est irremplaçable, nul n'est semblable à lui. Et cet épître aujourd'hui nous rappelle que Christ, nous avons tout pleinement en lui et qu'il mérite toute la gloire et l'honneur. Là où tu es, adore le Seigneur de tout ton cœur.
À tes pieds, majesté, nous te ferons nos louanges. Majesté, nous contemplons ta grâce. Oui, à tes pieds, Majesté, nous t'offrons nos louanges. À tes pieds, Majesté,
Alléluia, Seigneur notre Dieu, on se tient devant toi parce que tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, Seigneur. Si nous sommes là, c'est un pur effet de ta grâce. Et nous courbons nos êtres et notre volonté devant toi. Et on prie que ta grâce se manifeste dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous avons désespérément besoin de toi. Nous avons désespérément besoin de ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour, merci pour la grandeur de ton nom dans nos vies, Père. Amen. J'aimerais prendre un temps pour t'encourager aujourd'hui, comme on l'a entendu, on recherche la gloire de Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et je crois que c'est important de reconnaître la grandeur de Dieu, de savoir qui il est et qui nous sommes. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, à un moment donné, il a créé le jardin d'Éden et il a placé l'homme dans ce jardin. Il a créé Adam et Ève, il les a mis dans ce jardin qui était juste magnifique, extraordinaire. Et il y avait juste une restriction. Il ne devait pas toucher à un arbre. Et puis, un jour, malheureusement, le serpent est entré dans ce jardin d'Éden et il a jeté un hameçon, il a jeté un piège qui, bien souvent, malheureusement, c'est un piège qu'il nous jette et dont nous avons tendance à succomber. Il les a eus par l'orgueil. Il leur a dit, si vous mangez de ce fruit, en fait, vous serez comme des dieux. Et l'hameçon a été jeté. À partir du moment où Adam et Ève ont voulu être autre chose que ce que Dieu les avait créés, alors ça a été, malheureusement, le début de la fin. Ils ont pris ce fruit qu'ils ont mangé afin d'être comme des dieux. Et là, ça a été la chute. On doit comprendre que l'homme a été créé à partir de la poussière du sol. Et sur la poussière du sol, la première couche de la terre, ça s'appelle de l'humus. Et de l'humus, on a tiré le mot humilité, humiliation, mais également le mot homme. Et nous avons été créés avec de l'humus. Nous sommes des hommes. Dieu est Dieu. Et nous sommes des hommes. Et à partir du moment où l'homme a voulu être autre chose que ce que Dieu avait projeté pour sa vie, l'orgueil a amené la chute. Et j'aimerais vous impacter à travers cet encouragement à réaliser que, en fait, il y a des défauts, des péchés, comme il y a des vertus qui sont différentes des autres et qui peuvent bouleverser totalement notre vie. Et j'aimerais qu'on puisse écouter ce proverbe du chapitre 18.
L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire.
On doit comprendre que l'orgueil n'est pas un péché comme les autres et l'humilité n'est pas une vertu comme les autres. Je me souviens un jour, j'étais dans une église et puis j'ai discuté avec le pasteur et là le pasteur m'a montré un petit groupe avec lequel il y avait quelques tensions. Puis là il me dit, tu vois, ce gars-là, il a un problème avec la pornographie. Celui-là, il a un problème avec l'alcool. Puis 2-3 péchés, addictions comme ça. Puis à un moment donné, il s'est tourné vers une personne et puis il me dit, lui, il a un problème avec l'orgueil. Et ça m'a fait bizarre quand il m'a dit ça parce que j'ai vu que il mettait l'orgueil au même plan que les autres péchés. Alors je sais que le salaire du péché, c'est la mort et il n'y a pas de classement. Je veux dire, le moindre péché fait que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Néanmoins, il y a quand même des péchés qui ont un impact différent. Il y a une différence entre une maman qui va voler un morceau de pain pour nourrir son enfant et quelqu'un qui abuse un enfant. C'est quand même pas la même chose, même si les deux sont des péchés, comprenez-vous. Et on doit comprendre que l'orgueil n'est pas un péché comme les autres. L'orgueil, c'est la racine, c'est le problème des problèmes. C'est quelqu'un qui rentre dans mon bureau en tant que pasteur parce qu'il a regardé de la pornographie. En règle générale, il regarde ses pieds, il a honte, et je sais que je vais pouvoir l'aider. Je sais que je vais pouvoir aider les gens qui sont dans toutes sortes de problèmes et d'addictions. Mais quand quelqu'un est frappé par l'orgueil et que je dois traiter le problème, la personne rentre dans mon bureau, elle bombe le torse, et je sais que ça va être compliqué. Comprenez-vous? Je sais que ça va être compliqué parce que l'orgueil n'est pas un péché comme les autres. En fait, on doit comprendre que l'orgueil, c'est une puissance, littéralement, qui nous métamorphose. Vous savez pourquoi l'enfer a été créé? L'enfer a été créé parce qu'un jour, il y a un ange qui s'appelait Lucifer, le porteur de lumière, le conducteur de la louange. Et la Bible nous dit que cet ange, dans son cœur, a conçu de l'orgueil. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et à cause de ça, ça nous fait tellement, j'aimerais tellement que nous puissions chacun le réaliser. À cause de ça, à cause de son orgueil, Lucifer, qui à la base n'est pas péjoratif, c'est un très beau nom, ça veut dire le porteur de lumière. En fait, Lucifer est devenu Satan. L'orgueil n'est pas un péché comme les autres. Il a la capacité de prendre un ange et d'en faire le diable. Comprenez-vous? Et tous les anges qui ont suivi Lucifer par suffisance sont aujourd'hui les démons en activité sur la terre. Donc, ne pensez pas que l'orgueil est un défaut comme les autres. À cause de l'orgueil, le diable est né et à cause de l'orgueil, l'enfer a été créé. De la même manière, si nous sommes sauvés aujourd'hui, C'est grâce à l'humilité de Jésus. La Bible nous dit dans Philippiens qu'il n'a pas regardé alors qu'il était l'égal de Dieu. Il s'est arraché de tout ça et il est venu sur la terre. Il est né, lui le roi d'humilité, il est né dans une étable. Il a marché parmi nous, il a enseigné l'amour, il a enseigné l'humilité, il nous a enseigné de regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Lui, le roi des rois, s'est fait simple homme et il est mort par l'humiliation de la croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout genou fléchira devant lui. En fait, si je suis sauvé, si nous avons accès au ciel, c'est grâce à l'humilité de Jésus. Quand il y a un pécheur qui se repent, même si c'est le plus vil, le plus bas des pécheurs, qui a fait toutes sortes de folies, à partir du moment où il met le genou à terre, qu'il demande pardon à Dieu, Dieu est capable de le prendre, de le restaurer, de le relever, de le pardonner et de le déclarer enfant de Dieu. Comprenez-vous ? Par l'humilité d'accepter Jésus dans sa vie, nous pouvons être transformés de vils pécheurs en enfants de Dieu. Ne croyez pas que l'orgueil et l'humilité sont un péché ou une vertu comme les autres. Ce sont deux puissances de métamorphose. L'une, le péché de l'orgueil, c'est l'essence même de l'enfer, alors que l'humilité, c'est l'essence du ciel. L'un nous ouvre l'enfer, l'autre nous ouvre le ciel. Vous savez ce qui nous disqualifie dans la vie ? On a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. Donc, aujourd'hui, pourquoi il y a des gens qui sont sauvés et d'autres qui ne sont pas sauvés ? C'est pas une histoire de péché, on a tous péché. En fait, c'est une histoire de repentance. En fait, c'est l'absence de repentance qui nous disqualifie. L'absence de plier le genou devant Dieu par humilité, de s'humilier devant Dieu. En fait, ce qui nous disqualifie, c'est ça. Mais tous ceux qui par humilité plient le genou devant Dieu, s'humilient devant Dieu, alors ils sont déclarés enfants de Dieu. L'orgueil et l'humilité sont des puissances de métamorphose. Et j'aimerais t'encourager à réaliser la beauté de s'humilier devant Dieu. Ça ouvre le ciel. Je me souviens la première fois de ma vie que j'ai ressenti la présence de Dieu. J'avais 13 ans. Un ami à ma mère m'avait inscrit dans un camp de jeunesse. Et je me suis retrouvé dans ce camp de jeunesse et puis je me souviens c'était cool, c'était un camp qui durait 2-3 jours et là il y a eu un moment de chant avant la réunion, pendant la réunion il y avait un moment de louange et la louange elle était tellement devenue forte que je comprenais pas ce qui se passait. J'étais pas du tout chrétien, je savais pas ce qui se passait et là j'étais assis sur ma chaise et je commence à sentir les larmes qui arrivent, mais moi dans ma petite tête de gars de 13 ans d'origine sicilienne, pleurer devant des gens, pleurer même de... C'était inconcevable dans ma tête. Et je me suis levé, j'ai couru, je me souviens, et je suis parti me cacher dans les toilettes. Et là, ça s'est arrêté. Et 2-3 fois dans ma vie, j'ai ressenti cette présence. Et à chaque fois, les larmes allaient venir. Je me souviens d'une autre fois, j'avais 18 ans. Pareil, je me retrouve, je cherchais un ami à la fin d'une réunion de jeunesse. Là, il y a un temps d'appel et je ressens la présence de Dieu. Et à chaque fois que je ressentais la présence de Dieu, les larmes arrivaient et je pouvais pas pleurer devant les gens. Je partais, à chaque fois qu'il y avait la présence de Dieu, je partais en courant. J'avais tellement peur de pleurer, j'étais trop orgueilleux. Pleurer devant des gens, dans ma tête, c'était pas pensable. Et puis, à chaque fois que j'ai refusé ça, ma vie s'est empirée. J'étais de plus en plus loin dans mon péché. Puis un jour, j'avais 23, 24 ans, je rêvais que ma vie change. Je rêvais que ma vie soit métamorphosée parce que j'étais rendu loin dans les folies, les fêtes, la drogue. Les dernières années, je fumais 10, 12 joints par jour, de l'héroïne tous les jours, la fête tous les jours. Il n'y a pas un jour où je rentrais pas avant 4 heures du matin. Et je voulais que ma vie change. Je voulais que ma vie change. Et je me suis souvenu quand j'étais enfant que j'allais en colonie. Et sauf que là, à ce moment-là, j'ai 23 ans exactement. Je me dis, les colonies, c'est fini. Puis là, il y a un ami qui, un pasteur de jeunesse, alors que je vais chercher ma mère à la fin d'une réunion, il me dit, je t'ai inscrit à un camp de jeunesse. Je dis, mais c'est plus de mon âge. Il dit, si, c'est pour les 18-25 ans. Et là, je me souviens, je me retrouve dans ce camp. Et Dieu avait tout préparé. Le prédicateur avait tellement un témoignage qui ressemblait à ma vie. Et je me souviens, j'étais assis, et là, il commence à prêcher, et je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu, et on n'était pas nombreux, on était une douzaine dans ce camp. Et moi, j'étais assis à côté de la porte. Et je me souviens, il prêche l'amour de Dieu, je suis touché, je suis bouleversé. Puis à la fin, il dit, Voilà, on va courber les têtes. Et moi, dans ma tête, parce que je connaissais quand même, j'avais été pas mal de fois à l'église, je me dis, bah super, il va faire un appel au salut, et moi, je vais être le premier à lever ma main, donner ma vie à Jésus. Et puis là, il fait un appel à la consécration, et ils étaient tous chrétiens, les autres, et moi, j'avais la tête baissée, je dis, mais pourquoi il fait pas un appel au salut? Moi, je veux donner ma vie à Jésus maintenant. Et alors que je me disais ça, j'ai senti sa grosse main, ses grosses mains se poser sur ma tête. Pasteur, c'était Guy Bergamini, aujourd'hui, il est près du Seigneur. Et là, j'ai senti, j'ai été foudroyé de la présence de Dieu. Et je me suis mis à pleurer, mais je pleurais, mes amis. J'étais secoué tellement que je pleurais. Et je crois vraiment que mes larmes, c'était comme des larmes de pu. C'était le péché qui sortait, la grâce rentrait et le péché sortait. Et je me souviens, la réunion, et c'est ça qui était fou, la réunion se termine, il fait quelques annonces et tout le monde se lève pour partir. Et là, alors qu'il se lève pour partir, tous, moi qui avais honte de pleurer devant les gens, tous, parce que j'étais à côté de la porte de sortie, tous passaient devant moi et ils étaient là, parce que c'était tous des chrétiens, ils étaient tous contents de voir quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Ils étaient tous là, regarde, il pleure. Mais j'étais là et c'est pas grave. J'ai compris que ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était le 12 août 1995. J'étais foudroyé. Les gens sont partis manger. Moi, je pouvais pas. C'était en Auvergne. J'étais dans un petit endroit, dans une clairière. Et j'ai pleuré là pendant deux, trois heures. J'ai fait que pleurer. Je revoyais tous mes péchés, la grâce de Dieu. Et à un moment donné, j'avais entendu un verset qui disait qu'il y a de la joie dans le ciel. Les anges font la fête quand il y a un pécheur qui se repent. Et là, j'étais là et je me suis mis, les gens m'auraient pris pour un fou, mais je me suis mis à danser dans ce bois. Et je sentais littéralement sur mon visage, je sentais comme des voiles qui me caressaient le visage. Je sentais la joie du ciel, je sentais, et c'est tellement beau. Pendant des années, j'ai fait l'orgueilleux et je m'enfonçais de plus en plus loin dans le péché. Et le jour où j'ai accepté, par humilité, de pleurer devant Dieu, parce que qui suis-je? On n'est rien. On n'est pas grand-chose. Et on est de l'humus. C'est tout ce qu'on est, on est de l'humus. Et là, d'accepter Jésus, ma vie a totalement été changée. L'orgueil et l'humilité, c'est deux puissances qui métamorphosent et qui changent diamétralement votre vie. Et je t'encourage aujourd'hui à demander l'humilité de Dieu, à t'humilier devant Dieu. Ce qui te disqualifie n'est pas le péché, c'est l'absence de repentance. C'est l'absence de ne pas vouloir courber son cœur devant Dieu. Alors courbe ton âme, courbe ton être, courbe ta volonté devant le roi des rois. Il est Dieu, nous sommes des hommes, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est le premier, le dernier, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est tout. Et nous avons juste un appel à le louer, l'adorer et à savoir qui il est. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui écoutent cette émission Prière Inspirée. Je prie qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, quel que soit l'état du cœur, que chacun puisse courber son âme devant le roi des rois, reconnaître qui il est, reconnaître qui nous sommes et déclarer notre besoin au Seigneur. Seigneur, viens. Viens, s'il y en a qui ont besoin de repentance, repens-toi là où tu es. Si tu as besoin de Jésus dans ta vie, demande pardon à Jésus. Si tu as besoin, là où tu es, de voir sa grâce te métamorphoser, humilie-toi devant le roi des rois. Il est celui qui va bouleverser et changer ta vie. L'humilité va métamorphoser ta vie parce que tu deviens candidat à la bénédiction de Dieu. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dans le nom de Jésus, Père. Amen.
Dans ce temps de prière, tu entends ce qui a été partagé et tu n'as jamais voulu et accepter cette repentance. Mais c'est maintenant le moment où le Seigneur veut te sauver, te libérer du péché, te recevoir comme son fils, comme sa fille, et ça doit passer par la repentance. Toi aujourd'hui, tu te retrouves comme il a été partagé dans ce témoignage de Patrice à un moment très particulier. Tu es là juste avec le Seigneur. Sa main est sur toi, tu ressens la main du Seigneur sur toi, dans ton cœur. Tu sais que ses paroles sont véritables et tu connais même peut-être l'évangile déjà depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Si c'est toi, tu es prêt vraiment, sérieusement à te repentir, Alors ça va devenir un jour de miracle pour toi et de salut, de délivrance, où tout va changer. J'aimerais que tu puisses faire cette prière après moi, en t'adressant à Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande sincèrement pardon. Je veux vivre une vraie repentance. Pardonne-moi. Je suis sincère, Seigneur. Je ne veux plus de la religion. Je ne veux pas être le maître. Je veux que tu sois le maître. Je veux que tu sois mon Seigneur. Que tu diriges ma vie. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Alors que tu es mort à ma place, que tu as porté mes péchés, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. De tout mon cœur, je viens à toi. Et je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Pardonne-moi pour mes erreurs. Donne-moi une vie nouvelle. Viens habiter dans mon cœur. Seigneur Jésus, donne-moi ta paix. Merci Seigneur. Amen. Père, je veux prier pour chacune de ces personnes. Ta parole déclare que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Père, merci pour ces prières sincères qui se sont élevées. Ce témoignage que nous avons entendu est le témoignage pour quelqu'un, comme un hameçon qui a été lancé pour une vie sauvée. Merci pour cette vie nouvelle, Seigneur. Merci pour cet homme, cette femme qui devient ton enfant et dont tu vas prendre soin, qui va pouvoir grandir avec toi, marcher avec toi, vivre pour toi et devenir utile entre tes mains. Nous brisons toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que cette personne est bénie. Maintenant, entourée de ta grâce et de ta faveur. Alléluia. Alors ne t'inquiète pas, si tu as fait cette prière, le Seigneur est avec toi. Et même si ça secoue, même si ça secoue dans les prochains jours, le Seigneur est avec toi. La prochaine étape, il faut que tu te fasses baptiser. Il n'y a pas de baptême d'enfant dans la Bible. Fais-toi baptiser. C'est l'heure, c'est le jour, c'est le moment. Jésus a dit, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Fais cette étape. Va dans une église qui croit dans toute la parole de Dieu et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être on va terminer en prière. Si Patrice, tu peux peut-être terminer en priant.
Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont entendu toute cette émission, Seigneur mon Dieu, tu as entendu parler de la gloire de Dieu, tu as entendu combien il est important de courber son âme devant le roi des rois et ce que peut engendrer de rester entêté dans l'orgueil. Je prie, Seigneur, pour que des âmes, Seigneur, se tournent totalement à toi, parce que tu es celui qui nous veut du bien, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin, qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme, parce que c'est la journée que l'Éternel a créée. Et je prie qu'aujourd'hui, plusieurs saisissent la main tendue de Dieu. Il n'y a personne qui est trop sale pour notre Dieu. Il y a juste des gens orgueilleux qui ne veulent pas s'humilier, mais aujourd'hui, humilie-toi devant Dieu. Dis simplement, j'ai besoin de toi, Jésus. Et le Seigneur va venir. Il te tend la main encore aujourd'hui. Il va te restaurer, te relever, t'amener devant le trône de la grâce et te déclarer enfant de Dieu. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne que ta bénédiction, ton amour, ta miséricorde et ton pardon soient notre partage. Tu es le Dieu de notre salut, Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions et envoyez votre témoignage sur l'application Prière Inspirée et sur emcitv.com/je-témoigne.